franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par se poser la question qui est normalement l'essence de notre métier, l'information vraie ou fausse?
Et oui, c'est Daniel Schneiderman qui se la pose avec drôlerie, cette question, dans sa chronique ce matin dans Libération. Gorafi ou pas Gorafi? Le Gorafi, c'est ce site d'information parodique qui ne délivre que de fausses informations. Exemple, Macron poursuit sur le toit du métro le pickpocket qui vient de lui voler son programme. Ou encore, une file d'attente ne menant nulle part, découvert dans un bureau de poste. Le problème, c'est que ces faits alternatifs revendiqués deviennent de plus en plus crédibles, relève Schneiderman. Sans doute parce que, dit-il, l'actualité est de plus en plus déconcertante. La semaine dernière, d'ailleurs, un quotidien algérien s'y est laissé prendre, reprenant comme vrai une manchette du Gorafi. Marine Le Pen propose d'entourer la France d'un mur payé par l'Algérie. Alors on s'est gossé, dit le chroniqueur, mais l'actualité elle-même ne se gorafise-t-elle pas à grands pas? La faute, bien sûr, à Donald Trump qui a déplacé les frontières du genre. Mais chez nous aussi, difficile parfois de déceler ce qui est Gorafi ou pas. Macron et ses revirements sur la colonisation, bof, allez savoir. Fillon a davantage d'empathie pour Sarkozy depuis qu'il a été entendu 6 heures par les magistrats. Pas Gorafi, sont obligés de prévenir les journalistes à l'aide d'un hashtag. Il va donc falloir ouvrir l'œil, prévient Schneiderman. Alors dans l'actualité ce matin, quelques exemples de ce questionnement, Gorafi ou pas. Dans l'opinion, Michel Schiffre revient sur l'allusion de Donald Trump à un attentat en Suède, attentat imaginaire. Qu'est-ce qu'il a fumé? A tweeté un ancien premier ministre suédois stupéfait. Quand en réalité, le président américain n'avait rien fumé du tout, mais juste regardé sa télé préférée, Fox News, sur laquelle il a pu voir un extrait d'un documentaire sur les effets de l'accueil des réfugiés en Suède. Documentaire par ailleurs très controversé, nous raconte ce matin le Huffington Post. Effet Gorafi donc sur le président américain, mais pas Gorafi en revanche, c'est toute prochaine décision attendue. Après un premier mois chaotique, nous disent les échos. Tiens, on notera d'ailleurs en passant que le Figaro fait preuve de beaucoup plus de mansuétude en qualifiant le mois de présidence Trump simplement débouriffante. Les échos donc nous annoncent que c'est demain que le président pourrait commencer à détruire le bilan écologique d'Obama en détricotant plusieurs lois environnementales, celles notamment qui imposent aux centrales à charbon de réduire d'un tiers leurs émissions de carbone d'ici 2030 ou encore une loi contrôlant la pollution des rivières.
Dans la presse ce matin, Hélène, retour sur un week-end de campagne présidentielle.
Une campagne présidentielle peut-elle ne jamais commencer? S'interroge avec inquiétude Cécile Cornudet dans les échos qui relève qu'au-delà des attaques en règle qui ont eu lieu tout ce week-end entre les différents candidats, et bien décidément, il faut attendre bien tard les projets des uns et des autres. Non, pas du tout, rétorque l'opinion sous la plume de son éditorialiste Rémi Godeau qui prend fait et cause, lui, pour le candidat des Républicains. En l'absence de plan B et fort d'un programme abouti, François Fillon offre une vraie perspective de rupture, plaît-il. Mais reste une question, reconnaît-il tout de même, ce désir d'alternance raisonnable sera-t-il plus fort que tout? L'opinion s'engage pour Fillon, l'humanité pour Ruffin. Ce matin, François Ruffin, rédacteur en chef du magazine Fakir et réalisateur du film Merci Patron. Il est en campagne dans la circonscription de Flixecourt, dans la Somme. Flixecourt, petite ville, symbole de la grande époque du capitalisme familial et paternaliste. Flixecourt, point de départ de son film, puisque Bernard Arnault y avait racheté une des usines textiles avant de la liquider. Une circonscription qui a longtemps été rouge vif, détenue par les communistes avant de passer au PS. Mais c'est le FN, ici, qui fait désormais des ravages. Ruffin sera notamment opposé au comédien Franck de la Personne, que le FN a investi. Alors à Amiens, où les salariés de Whirlpool viennent d'apprendre la fermeture prochaine de leur usine, Ruffin plaide pour une loi interdisant les produits Whirlpool en France, rêvant aussi, dit-il, de nouvelles jacqueries qui partiraient de la Picardie avec ce mot d'ordre « paix au hameau, feu au château ». Il a réussi le tour de force sans enthousiasme l'humanité de rassembler autour de sa candidature toutes les forces de la gauche, communistes, écologistes et la France insoumise de Mélenchon, toutes, non, pas complètement, quand même, car le PS fait bande à part, même si le journaliste a croisé au meeting quelques socialistes incognito, dit-il, prêts à faire connaître bientôt leur choix de la gauche unie face à celle qui a renoncé. Mais qui a donc renoncé à la gauche unie? Eh bien, Libération ce matin ne prend pas parti entre les divorcés, mais il dresse le constat, Hamon, Mélenchon, c'est mort. Et puis enfin, une info qui va sans doute intéresser vos invités, Patrick, et vous en parlez d'ailleurs depuis 7 heures. Nouvelle illustration du manque de moyens de la justice. C'est à lire dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, la grève des juges qui menace Fleury-Mérogis. Les 9 juges d'application des peines du tribunal d'Évry dans l'Essonne viennent d'engager un mouvement inédit de protestation contre le manque d'effectifs. Ils n'enregistreront plus aucune demande d'aménagement de peine tant qu'ils n'auront pas obtenu un juge en plus et surtout des greffiers totalement surchargés aujourd'hui. Résultat, impossible désormais de sortir de Fleury-Mérogis sans avoir purgé la totalité de sa peine, ce qui fait craindre à un surveillant pénitentiaire des remous auprès des détenus.
On termine, Hélène, par une presse en bleu ce matin.
Oui, un petit carambolage amusant. En effet, quand vous allez acheter votre journal papier ce matin, vous allez constater que beaucoup de vos titres de la presse nationale, en tout cas, sont tous de bleu habillés. Alors, il y a les Échos, aujourd'hui en France, le Parisien, le Figaro, Libération. Libération qui se fend même d'une petite mise en garde à ses lecteurs. Ne voyez dans ce bleu, leur dit-il, aucune prise de position politique subreptice. Non, il ne s'agit que d'une simple opération publicitaire. Opération de grande envergure signée Samsung, en l'espèce, qui propose son nouveau smartphone en bleu corail. Mais figurez-vous que pendant que la presse est bleu corail, eh bien l'héritier de Samsung, lui, est dans le noir. Il est à l'ombre. Jae-hee Lee vit en effet depuis vendredi dans une cellule de moins de 7 mètres carrés dans une prison de Séoul. Ce sont les Échos, à la une bleue donc ce matin également, qui nous raconte que le patron du plus grand groupe d'électronique de la planète devrait être mis en examen dans les jours qui viennent pour corruption. Même pas grave, répond le service com de Samsung. Les patrons de la soixantaine de filiales du conglomérat, eux, continuent de bosser et de vanter les mérites de leur nouveau smartphone via donc d'impressionnantes campagnes de pub. Pas Gorafi du tout le partage des tâches chez Samsung.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse sur Inter.